Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Super Laser Punch, l'émission où on parle des trucs Marvel en général, plutôt des séries télé, du MCU, des films, tout ça. Parfois un petit peu d'autres choses, mais aujourd'hui, on est en plein dans le MCU avec deux épisodes de She-Hulk. Je suis Patrick Béja et juste à côté de moi, c'est He-Johan. C'est le Johan...
Oui, en plus calme.
En plus calme. Non, mais c'est ça, toi, tu es tout le temps énervé, donc tu maîtrises complètement, tu es totalement
Exactement,
zen.
Ouais.
De temps en temps, le Johan ressort et s'énerve contre... Non, tu t'énerves jamais, en fait. J'ai l'impression que tu n'es jamais énervé. Donc,
moi, bon. je suis jamais énervé, moi.
Ouais, toujours calme, très bien.
C'est mon super pouvoir à moi.
Écoute, on a deux épisodes de She-Hulk, après deux épisodes d'introduction, on va dire. Le premier qui était l'introduction de She-Hulk, le deuxième l'introduction de Jen Walters, presque, avec sa partie avocate, dans laquelle s'immisce ouais. She-Hulk. Et là, on a vraiment le groove de She-Hulk qui a été trouvé, qui a été établi avec des épisodes vraiment, comme on appelle ça, tu sais, dans les séries procédurales, avec chaque fois un cas d'avocat, une affaire, un procès qui prend une toute petite partie de l'épisode, et puis la vie de Jennifer Walters et comment elle gère l'aspect She-Hulk de sa vie. Le premier, est-ce que tu veux parler en général ou on commence déjà avec le premier, The People versus Emil Blonsky?
Non, bah on peut démarrer.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans le... J'ai déjà un peu oublié. En fait, c'est le procès de Emil Blonsky, alias Abomination, qu'on avait déjà vu dans l'épisode précédent. Et il y a en parallèle...
Voilà, c'est l'explication de, justement, cette histoire d'évasion qu'on avait laissé dessus. C'était, elle prend le cas, mais du coup, elle découvre qu'il y a eu... il y a la vidéo qui a leaké sur le fait que Abomination fait des matchs de catch ou de combat clandestin. Et du coup, là, c'était juste... Il y en a pas mal qui se posaient la question de savoir si maintenant ça se passe en même temps, c'est quand, etc. Non, donc c'était bien avant, et la vidéo n'a leaké que maintenant. Et du coup, c'est quand même...
Ce que tu avais compris grâce à une astuce de timeline juste après qu'on ait fini d'enregistrer, et c'était indéniable. Mais bon.
Et du coup, ça sert... En fait, il n'y a pas vraiment de...
Je me souviens même plus ce qu'ils disent, d'ailleurs, comme explication.
Cette explication, c'est juste que le sorcier suprême est venu le chercher pour parce que ça fait partie de ses épreuves pour gagner le titre de sorcier suprême. Il fallait qu'ils affrontent un danger de telle catégorie ou je sais pas quoi.
Ah oui,
là,
d'accord,
donc,
ok.
Du coup, il l'a ramené pour le combattre donc il était forcé de le faire, c'était pas son choix, etc.
Il est revenu de son propre chef et donc.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Donc, on a des apparitions donc, de encore Emil Blonsky et puis Wong, qui décidément, c'est vraiment celui dont on sert quand on veut mettre des gens du MCU. Il a presque plus de temps d'écran dans les séries, j'ai l'impression maintenant,
trucs
que ses
films,
propres.
Hein.
Il est tout le temps là. Donc, il y a cette partie et il y a aussi la partie procès entre, comment il s'appelle, le collègue insupportable qui du coup est devenu marrant tellement.
J'arrive pas à garder son nom à lui. À chaque fois,
C'est Dennis, je crois.
Ah, Dennis.
Qui était genre le proxy pour les incels énervants sur Internet dans le premier et le deuxième épisode.
Ouais.
Et là, il est devenu tellement caricatural, je trouve. Alors, il est toujours un petit peu ça, mais du coup, il est marrant, je trouve, maintenant. C'est genre...
Mais en fait, c'est toute la série, enfin, c'est tout le ton global qui est devenu vachement plus loufoque, en fait. Tout à coup, j'ai l'impression, quoi.
Surtout avec le quatrième épisode, dont on va parler après, mais que j'ai beaucoup aimé, moi. Mais ouais, c'est devenu une galerie de personnages vraiment qui fait un peu penser à des trucs comme Ally McBeal ou...
Là, on est dedans, ouais.
Ouais, on est en plein dedans. Je sais pas si tu regardais Boston Legal, qui était une série qui ressemblait beaucoup... pas Boston Legal. Si, c'est Boston Legal, ouais. Boston Legal, et il y avait aussi des personnages un petit peu loufoques, très marrants, qu'au début, tu les voyais, tu disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au bout de 3-4 épisodes, tu commences à les apprécier pour leur loufoquerie. Il fait très bien ça, c'est David E. Kelly, je crois. Si, je crois que c'est ça. Bref. Et il y a Megan Thee Stallion, que je ne connaissais pas, qui est une rappeuse, clairement.
Alors, moi non plus, je pense que personne ne la connaissait...
En dehors des États-Unis, je crois que tout le monde connaît maintenant, enfin tout le monde, tous ceux qui regardent la série ne connaissaient pas Megan Thee Stallion, et maintenant la connaissent peut-être.
Je pensais que c'était une star dans le monde alternatif du MCU, tu vois. C'est une chanteuse ou je sais pas quoi, et j'ai pas compris tout de suite que c'était dans la vraie vie, quoi. Après coup, quand j'ai vu les articles.
Dans ce genre d'OP, ils disent tellement le nom de la personne. Et c'est genre, mais comment tu es sorti avec la rappeuse de renommée internationale Megan Thee Stallion? Et dans ce genre de cas, tu te dis, ok, bon, c'est un truc, elle est vraiment connue, elle existe vraiment. Mais, mais ouais, donc du coup, il y a ces deux histoires, il y a le A-plot et le B-plot, et le A-plot avec Blonsky, et ses 7 ou 8 âmes sœurs, et le B-plot avec le Light Elf qui fait semblant d'être... Enfin, Runa, le Light Elf qui fait semblant d'être Megan Thee Stallion, et j'ai adoré la partie avec la voiture. Qu'est-ce que c'était? C'était une Polo ou un truc comme ça. Et il dit, ouais, j'ai même dû lui payer une Polo. Ça passe comme ça, et tu te dis, mais... Enfin, tu pensais que c'était une artiste, une rappeuse à succès, et qu'elle veut une Polo. Et à la fin, ils font référence à ça, tu sais. C'est genre, mais putain, ils croyaient même qu'elle voulait conduire une Polo. C'est abruti. Et la situation, je trouvais très drôle, où ils le mettent dans une situation où il doit admettre... pour gagner son procès, et à la fin il gagne et il est content et il a réussi son coup, mais pour gagner son procès il doit du coup avoir le témoignage de Jen qui explique comme il est complètement, il est tellement
narcissique
que oui, il est tout à fait crédible qu'il ait cru que c'était vraiment Megan Thee Stallion. Et puis les petites touches où Runa, la Light Elf, se transforme en juge. Et ça fait un truc marrant un moment, et puis après elle dit « Et pour avoir impersonated un juge, vous avez en plus tel truc. » Et tu vois, ça revient, et c'est juste un petit rappel au truc, et c'est un petit moment comique, une petite pique comique, qui donne à l'ensemble de l'épisode un ton hyper léger, sans aucun doute dans l'univers de Marvel, et... d'une manière beaucoup moins... Comment dire? Il n'y a pas d'énorme enjeu. Peut-être que je vais laisser cette conclusion pour la fin de l'épisode 4, mais ouais, c'est léger et c'est sympa. Et l'épisode, je l'ai trouvé très cool, quoi.
Ouais, alors du coup, pour ma part, alors c'est vrai qu'on pourrait dire des choses sur les deux épisodes en même temps, en fait, en réalité. Mais du coup, moi, déjà, c'est ce que je voulais, hein. Je tiens quand même à le dire. Effectivement, là, on est dans le procédural, avec des cas légaux qui se déroulent, etc. Un truc assez loufoque, pareil, c'est aussi ce que j'attendais. Par contre, du coup, ça me fait pas trop marrer, en fait.
C'est-à-dire je passe
un bon moment devant, c'est-à-dire que c'est sympa, c'est très, moi je décompresse un peu devant, il y a aucun souci, mais j'ai pas le truc qui me fait vraiment, éclater de rire, quoi, vraiment. Donc du coup, je reste quand même un peu sur ma fin, particulièrement sur cet épisode-là, un peu moins sur le suivant, mais du coup, je trouve que ça ronronne un peu, quoi. Je trouve que c'est un petit peu Je sais pas trop dire de quoi ça manque, mais c'est peut-être juste les blagues qui font pas mouche pour moi. Hein, mais et puis aussi le côté quatrième mur justement où elle s'adresse régulièrement à la caméra. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça apporte finalement beaucoup.
Ah c'est vrai. Putain, pour moi, ouais. Ça marche carrément. C'est marrant parce que moi, je suis très, très fan des trucs justement loufoques comme ça. Enfin, comme je le disais au début, à l'épisode précédent, c'est pile ce que j'aime dans les séries légales et ça en manquait un petit peu dans les deux premiers épisodes. Et là, le troisième et en particulier le quatrième dont on va parler maintenant du coup, c'est pile ça. Et moi, comme je suis très client, ça me plaît vraiment. Tu vois, ça me fait marrer, et en particulier dans le quatrième. Là, pour le coup, peut-être que sur le troisième, je suis d'accord avec toi. Il est moins drôle, le troisième, mais le quatrième, il m'a vraiment fait rire laughing out loud. Tu vois, c'était pas juste que j'ai souri, c'est que j'ai eu des petits dans l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cette reproduction fidèle de Patrick Kiry devant She-Hulk. Mais du coup, parlons du dernier, enfin du quatrième, dans lequel, là, pour le coup, l'histoire est intéressante. Donc, enfin, là, le A-plot et le B-plot, c'est... Le A-plot, c'est Donny Blaze, le magicien du Mystic Castle, qui envoie Madison avec un Y et deux N dans une autre dimension. Et le B-plot, c'est... la vie amoureuse de Jen Walters qui n'arrive pas à concilier Jen et She-Hulk et qui, à vrai dire, n'a pas vraiment de succès avec Jen et qui a un succès, on va dire, superficiel, semble-t-il, avec She-Hulk. Et du coup, la vie du dating quand on est une super-héroïne, j'ai failli dire une méta-human en croisant les flux, mais une super-héroïne, c'est pas facile. Et du coup, toi, cet épisode t'a un peu plus plu, mais c'est resté quand même bon, ouais. Ça fait sourire, mais voilà, quoi.
Ouais, alors la partie dating, moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Voilà, j'ai un peu du mal, moi, avec ce type de thématique. C'est juste que moi, j'ai pas daté depuis 2004, donc tu vois...
toi, tout ce qui te concerne pas, tu t'en fous, en fait.
Ouais, non, mais là, particulièrement, je suis voilà, les enjeux me passent un petit peu au-dessus, je comprends pas tout ce qui se passe, quoi. par contre, la partie des magiciens, ça m'a éclaté. J'ai trouvé ça vraiment super drôle. Là, pour le coup, j'ai pas mal rigolé. Surtout avec cette espèce de parodie de, je sais plus comment il s'appelle, c'est David Blaine. Je sais pas si t'as fait cette référence-là.
Ouais.
Ça faisait partie des vidéos qu'on se partageait presque avant YouTube. De ce magicien de rue, etc. Un peu marrant comme ça. Et du coup, j'ai adoré cette partie-là. Mais du coup, voilà, la loufoquerie est vraiment à son comble. Wong qui revient, donc il veut pas lâcher l'affaire, on l'a dit. je sais pas comment il a géré son contrat, si c'est vraiment la production qui l'adore et qui le fait revenir ou...
je pense que c'est un moyen d'avoir un personnage du vrai MCU. Et lui, il n'est pas, tu vois, c'est pas un acteur qui a des opportunités incroyables partout, j'imagine. Et du coup, il ne va pas dire non. Hein. Est-ce que tu peux être dans tel et tel film et telle série ? C'est le genre d'acteur, j'ai l'impression. Il avait fait Marco Polo, dans lequel il était super bien. Mais à part ça, je crois qu'il n'a pas fait grand-chose d'autre. Et je pense que, tu vois, on lui dit, on te file 10 000 dollars ou 15 000 dollars pour être dans cet épisode. Il dit, oui, banco, quoi. Ou j'en sais rien combien il prend, mais parce qu'il sait qu'il ne va pas être super demandé. Il ne va pas pouvoir faire n'importe quel rôle comme un Chris Evans ou un Robert Downey Jr. après avoir fini ses rôles du MCU, quoi, je pense. Mais bon, bref, il est effectivement dans cet épisode encore. Et... on n'a pas parlé du twerking dans l'épisode précédent, que j'ai trouvé assez drôle aussi. Mais c'est marrant parce que ils ont placé dans ces épisodes 3 et 4 des références aux réactions de Twitter qui sont hyper délicieuses parce qu'elles arrivent justement après que les réactions aient déjà eu lieu. Tu vois, ils ont dû regarder les réactions aux épisodes 1 et 2. et se dire bah, on a vu hyper juste, parce que c'est exactement ce dont il parle dans les épisodes 3 et 4, et il les a fait venir genre 2 ou 3 semaines, histoire que ces réactions arrive dans la vraie vie sur Twitter et que ça les désamorce un petit peu parce qu'ils disent bah voilà, c'est encore une fois Twitter qui fait ci, Twitter qui fait ça. Mais par ouais, rapport
c'était
à.
C'était prévisible, hein, donc du coup, à mon c'était avis, prévisible. C'était prévu à l'écriture.
Ah ouais. Oh, bah complètement, complètement, c'était prévu comme ça. Ouais. Mais du coup, Wong, elle dit ah bah vous êtes content, vous avez l'air content. Ah bah oui, c'est parce qu'il y a Wong encore dans cet épisode. Wong, c'est un petit peu comme une armure pour Twitter. c'est marrant. Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment son. Ces petites une ou deux fois par épisode, sa discussion avec l'audience. Mais ouais, donc Donnie Blaze, ça a marché avec toi.
Ouais, ouais, ça a bien marché. Et puis du coup, c'est. Toute cette intrigue-là, elle est finalement assez fun, quoi. Parce que moi, on aurait pu dire que ça se passe qu'au tribunal. Puis finalement, t'as quand même. Dans un premier temps, il gagne. Donc du coup, là, c'est aussi, tu vois, c'est un aspect légal. C'est-à-dire qu'il d'accord, il gagne. Tribunal, mais du coup il se passe des choses après où il va y avoir l'invasion. Puis ouais, en fait, puis il y a tout ce spectacle complètement ridicule où il envoie des nanas dans des dimensions démoniques et elle revient avec un cœur à la main. Enfin, franchement, ça m'a vraiment éclaté, quoi.
Moi, je trouve que les deux trouvailles vraiment de même presque de toute la série, c'est Donnie Blaze et Madison que je trouve Donnie Blaze vraiment juste drôle, tu vois, caricatural et loufoque, et presque, il est pas vraiment, il est même pas vraiment original, tu vois, si tu veux faire un magicien loufoque, bon bah voilà, je suis sûr qu'il y en a eu dans toutes les séries, et dans tous les, c'est exagéré, c'est ridicule, et son avocat est aussi un magicien, et machin, c'est complètement débile, mais ça fonctionne, tu vois, maintenant tu dis Donnie Blaze, et c'est un truc drôle, quoi. Et Madison, qui m'a fait grincer des dents au début, je me suis dit, c'est bon, quoi, cette cliché un petit peu ridicule. Et ce que je trouve hyper fort, je me suis dit, bon, bah, il l'envoie dans la dimension machin, il va falloir aller la sauver, ils vont envoyer She-Hulk, peut-être dans la dimension ou je sais pas quoi, ou la récupérer. Mais en fait, pas du tout. Elle arrive chez Wong et elle a réussi à s'en sortir sans grande difficulté, mais complètement en restant la Madison ridicule, la party girl tout le temps bourrée, qu'elle était au début telle qu'ils l'ont présentée. Et elle reste ça jusqu'à la fin. C'est complètement Boston Legal. Et du coup, tu en viens à vraiment aimer le personnage pour sa loufoquerie. Et je me dis, mais putain, il faut qu'on la revoie, Madison, quoi. C'est pas un personnage principal, mais il faut qu'elle soit, elle fait partie de cette galerie de personnages un petit peu idiots que tu adores revoir quand elle vient pour un ou deux épisodes. Et quand elle commence à dire « C'est Madison avec un Y et deux N, mais c'est pas ce que tu crois !» Et tout le monde s'en fout, et elle a l'impression d'être, tu sais, la star du truc.
C'est la seule qui s'amuse à ce spectacle de magie.
Ouais.
Un peu nul, où tout le monde s'ennuie parce que du coup, on est dans un monde où il y a de la vraie magie et tout, et donc du coup, ils viennent, ouais. Je sais pas pourquoi ils viennent voir un mec faire des tours de cartes, du coup, mais du coup, c'est la seule qui est à fond là. Ouais, non, ce personnage-là, il marche super bien, et puis il fait, comme tu l'as dit, là, quand elle raconte comment elle s'en est sortie.
Et alors, j'ai dû parler à cette chèvre et je lui ai donné 6 gouttes de mon sang et puis il m'a renvoyé ici. Mais je peux jamais parler de notre contrat parce que sinon, il a dit, tu vois, c'est genre, ça fonctionne, mais pardon, je t'ai interrompu. Ça fonctionne.
Non, c'est ça, c'est absolument génial, quoi.
Donc ça a marché avec toi aussi, cette...
Ouais, vraiment cette partie-là, moi j'ai vraiment adoré, et j'espère qu'on aura un peu encore de ce genre de choses-là après coup, quoi.
Je suis d'accord.
Parce que du coup, il y a un truc dont on n'a pas parlé dans l'épisode d'avant, mais il y a eu une introduction d'antagonistes, le groupe c'est quoi, les Breakers, ou je ne sais plus comment ils s'appellent dans les comics, mais c'est un vrai groupe de méchants, quoi, qui sont liés à Thor. Qui ont ramassé des objets asgardiens là, de construction.
Ouais, c'est vraiment... Ça aussi, ça fonctionne super bien. C'est genre, mais vous avez été chopé du matériel de construction de New Asgard. C'est le et tu te demandes pourquoi ils ont un casque qui brille, tu sais, une clé à molette, c'est genre ah, on est des super-héros, enfin c'est complètement le genre de truc qui pourrait se passer. Ça me fait penser à Spider-Man, c'était le premier, Homecoming, tu vois, où c'était genre, on essaye de vendre les trucs, de récupérer, c'est complètement crédible, et la clé à molette d'Asgard, c'est tu deviens
ouais,
un super-héros.
Là c'est un peu trop, ouais, c'est ça. Mais du coup, bah voilà, ça c'est finalement très second plan. Enfin, je veux dire, ils l'ont présenté. Je pense que ça va ressortir à la toute fin et pas avant. Donc voilà, j'espère qu'on aura encore un peu des cas loufoques drôles comme celui des magiciens. Là, pour le coup, je m'attendais pas à ce que ça aille en fait aussi loin hein, dans justement cet aspect un petit peu ridicule, drôle ridicule, ouais. Parce que du coup, la difficulté, ça reste que, je pense que c'est la première fois hein, là, qu'on a un objet du MCU qui va aussi loin en fait, c'est dans cette partie ridicule, pas crédible, etc. Tu vois, en général, ils essaient quand même de...
Ouais, ça redevient sérieux à un moment.
Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, t'as presque l'impression que t'es pas dans le même univers en fait. Et t'as Wong qui est là et Emile qui sont là pour Apexi et du coup tu vois on visualise souvent ces personnages là après sur leurs interactions futures. Je me demande comment ça se passera quand il y aura une She-Hulk dans un cast d'Avengers. Est-ce qu'elle se tournera vers la caméra pour dire des trucs drôles, tu vois, enfin, ou pour dire des choses à l'audience, ce genre de choses là. Donc
voilà. J'imagine que oui, c'est le genre de choses que je suis curieux de voir aussi. J'aimerais bien qu'elle le fasse. Tu vois, qu'elle ait quand même un moment où elle arrive, elle dit « Ok, maintenant, c'est les Major League, tu vois, c'est le film des Avengers, faut pas déconner, quoi, faut pas que je me rate », ou un truc du genre, mais...
Du coup, maintenant, j'ai envie de la voir à côté de Deadpool, quoi, et elle s'adresse à l'audience, et que Deadpool remarque qu'elle s'adresse à l'audience.
Bon, peut-être qu'il faut attendre un tout petit peu, tu vois, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. J'espère aussi que les effets spéciaux seront meilleurs, parce que autant sur les épisodes 1 et 2, c'était quand même très correct, autant sur les épisodes 3 et 4, ça me sort pas de la série, d'ailleurs on en parle là à la fin de l'épisode, mais le niveau de qualité de la modélisation de She-Hulk, on n'est clairement pas à un niveau incroyable, quoi, mais bon... c'est pas dramatique, mais pour moi, il y a une chute de niveau. Quoi.
C'est pas dramatique, mais c'est sûr que... Après, c'est aussi un reproche qu'on entend sur toutes les séries. Quoi. C'est...
Bah là,
Quand tu regardes les budgets...
Ouais, c'est sûr, mais c'est un personnage principal, tu vois, c'est compliqué d'avoir un truc de mauvaise qualité quand c'est le personnage principal que tu vois tout le temps, quoi. Mais justement, ouais, à propos...
Moi, j'en suis à préférer quand même quand elle est pas en chiel, quoi.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, je suis.
Ça fait un obstacle en plus à son jeu d'acteur, etc. Donc, c'est pas évident. Ouais.
Moi, ça me gêne pas, mais je le remarque, certainement. Beaucoup plus que dans les épisodes 1 et 2 où on disait, bon, bah, en fait, ça passe, quoi. Mais du coup, il y a l'autre partie, sa vie amoureuse, que toi, clairement, comme tu n'es pas. Tu ne dates plus, bah, ça te concerne pas. Moi, je date pas non plus, mais je me souviens de ces mésaventures nombreuses avec des personnes qui n'étaient pas forcément hyper intéressantes il y a très longtemps. Et du coup, je trouve que c'est pas mal pour le personnage parce que le ton est très léger tout le temps, y compris dans ces scènes-là, mais ça lui donne un petit peu d'épaisseur et on comprend. Le problème de Jane Walters She-Hulk, c'est que, tu vois, je suis encore plus content aujourd'hui qu'on n'ait pas eu une ressucée de son problème, c'est qu'elle doit concilier maîtriser son alter ego de Hulk, comme c'était le cas avec son cousin. Et c'est pas ça, on a évacué, c'est comme on va pas faire toutes les phases sur les pierres d'infinité, on va pas faire tous les trucs de Hulk sur bah, il est très énervé, il faut qu'il maîtrise sa violence, tu vois. Mais d'une manière différente, elle doit concilier ces deux identités parce que à partir du moment où elle est devenue She-Hulk, bah, il y a que She-Hulk qui compte dans sa vie et elle est pas hyper intéressée par l'idée de devenir She-Hulk, c'est pas Titania, tu vois, qui elle fait sa vie d'influenceuse sur son statut de super-héroïne ou en tout cas de super-héroïne. Et dans sa vie amoureuse, je trouve que c'est pas mal fait quand elle est juste Jane Walters. Bon bah ça marche pas super bien. Et quand elle est She-Hulk, les gens s'intéressent qu'à She-Hulk et, de manière pas très subtile, le Nice Doctor, c'est ça qu'elle l'a qualifié, le Nice Doctor. Bah en fait, il était hyper, il acceptait vachement la personnalité, la force de She-Hulk. Et d'ailleurs, il lit Bad Feminist à un moment, c'est assez marrant. Mais du coup, soit c'était un truc, une sorte de, comment dire, il jouait ça pour passer la nuit avec elle, et puis le lendemain, il voulait partir de toute façon, soit une fois qu'elle est Jen, il s'en fout et il se barre. Et j'ai trouvé tout ça très bien écrit, très bien joué. Et tu sens complètement qu'elle, elle a envie de d'été, elle a envie de coucher un petit peu parce que ça fait longtemps, et pas qu'un petit peu, clairement. Et en même temps, ça remet pas en question les thèmes de sexisme du reste de l'épisode. Et lui, c'est un mec qui a l'air clairement, à moins qu'il joue la comédie, mais j'avais pas l'impression, c'est un mec qui a l'air clairement assez à l'aise dans sa masculinité pour accepter que She-Hulk puisse le porter. Mais en même temps, il se barre le lendemain parce qu'il voulait un coup d'un soir. Ou alors, il a pas du tout envie de parler à Jen Walters. Et tout ça est cohérent sans être... c'est bizarre cette série parce qu'il y a des aspects très caricaturaux et en même temps des aspects assez subtils sur ces questions de le fait que She-Hulk soit plus forte que n'importe quel mec et les questions de sexisme et etc. Et je trouve que ça fonctionne au final et que cet aspect ça me donne de l'épaisseur au personnage de Jen Walters. Elle a un vrai problème avec son identité de super-héros qui est l'inverse de tout ce qu'étaient les problèmes de super-héros du MCU jusqu'à maintenant. C'est que c'est pas qu'elle rejette complètement She-Hulk, mais c'est pas ce qui l'intéresse dans sa vie. Et je trouve que ça fonctionne pour la série, quoi. Bon, clairement, tu es d'accord avec moi. Tu n'as rien à ajouter.
Moi j'ai Donnie Blaze et ses étincelles dans les yeux.
D'accord, très bien dans les yeux.
Rien vu d'autre de l'épisode. Si ça finit sur du coup la poursuite un peu d'un fil rouge avec Titania qui la signe en justice parce que dans l'épisode précédent elle s'est publiquement présentée comme She-Hulk alors que c'est Titania qui avait déposé la marque.
Alors la grande question, ça va être est-ce qu'elle l'a déposé quand She-Hulk a commencé à apparaître ou est-ce qu'elle y avait carrément pensé avant parce qu'elle est très forte visiblement. Je connais pas bien Titania, mais c'est l'une des ennemies de She-Hulk dans les comics. Mais peut-être qu'elle y avait pensé même avant et là ça serait vraiment un problème. Mais à voir.
Je sais pas si ça marche comme ça les dépôts de marque.
Les dépôts de marque.
Il faut l'utiliser, donc il faut l'utiliser soi-même,
bien sûr, oui, si tu l'utilises pas, mais je pense qu'il y a des... Bon, on va pas rentrer dans les questions légales, mais il y a des questions de délai, il y a des questions de... Mais c'est différent si, j'imagine, même moralement, si elle l'a déposé quand le terme She-Hulk est apparu dans les médias, ou si elle l'avait déjà fait avant, tu vois, si elle a une... Bon, mais... Ce que je dirais, c'est que, comme toi, j'espère que ça ne va pas se transformer en combat contre un très méchant avec des enjeux importants, même si c'est au niveau de la vie de Jennifer Walters. J'espère qu'il ne va pas y avoir des trucs genre « Ah, on va prendre ta famille en otage » ou « Ah, on va détruire le tribunal de trucs. » Ah, on va... J'espère que ça va rester léger comme ça. Bien sûr, il peut y avoir un petit peu... de monter. Mais tu vois, j'espère que ça va pas faire comme toutes les séries Marvel où tout à coup ça se transforme en Miss Marvel. Mais ils vont détruire toute la réalité avec leur dimension machin. Non, vite, il faut les sauver avec nos effets spéciaux pourris et nos trucs qui éclatent de partout. Donc on verra ce que ça donne, mais pour moi ce ton me convient tout à fait. Et j'espère qu'on verra en bonus dans le dernier épisode Madison qui va revenir et qui va dire Wongers, t'as déjà bu hein?
elle attend avec son pacte avec la chèvre, machin.
Avec la chèvre,
ouais. Pouvoir maintenant. Ouais, ouais. Pouvoir, hein, maintenant.
Ah bah non, mais je pense que la chèvre va pouvoir peut-être. Peut-être, tu sais que la chèvre, c'est un truc du genre, elle veut juste venir de temps en temps quand elle veut dans le monde.
Est-ce que c'est Mephisto ? Est-ce que c'est Mephisto ?
Mephisto,
qui est derrière tout ça.
Non, c'est la chèvre qui veut venir boire des coups dans le monde des humains de temps en temps, tu vois. Et donc, elle a fait un pacte avec Madison pour pouvoir se faire invoquer régulièrement. C'est peut-être pour ça. Et tu vois, j'espère justement qu'il ne va pas y avoir un truc super dramatique au bout d'un moment. Un petit peu, ça va, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. À un moment, il y a des combats, il y a des trucs. Mais bon, à voir ce que ça donnera. Donc, dans l'ensemble, écoute, moi, je suis hyper satisfait de ces deux épisodes. On n'est pas encore à la moitié, donc ce n'est pas le moment où généralement il y a un ventre mou encore, parce qu'il y a 9 épisodes en tout. Alors, l'épisode 5, c'est pile la moitié. C'est l'épisode de la moitié, parce qu'il y en a 9. Donc, bon, le 4 aurait pu être le début du ventre mou, mais pour moi, c'était le meilleur épisode.
Ouais, je crois aussi.
Ouais, t'es d'accord. Et du coup, j'espère que... Et il faut avouer que c'est plus dur à rater quand t'as un truc procédural comme ça, avec une histoire déconnectée un petit peu différente à chaque épisode, parce que t'as pas besoin de trouver des moyens de prolonger l'histoire, même si franchement, sur 6 épisodes, ça devrait pas être si dur que ça. Mais bon, t'as pas de besoin de prolonger l'histoire alors que t'avais prévu un truc pour 4 et que tu dois le faire durer 6. Là, tu peux juste trouver une histoire un petit peu différente à chaque épisode. Donc, j'espère que ça fonctionnera. On verra. Réponse dans 2 semaines, quand on reviendra pour parler des épisodes 5 et 6.
On aura aussi, du coup, on en parlait juste avant, il y a la D23 qui va commencer ce week-end, là.
Ouais, donc peut-être que, en fonction de ce qu'ils annoncent, peut-être qu'on reviendra la semaine prochaine pour un épisode de discussion sur les annonces de la conférence D23. Généralement, il y a des annonces pour tous les domaines de Marvel, hein, à D23. Oui. Peut-être qu'on
va voir. Là, il y a pas mal d'attendus. La pression monte un petit peu sur le cast, tu sais, des 4 Fantastiques, des annonces autour des... Tu sais, des teasers ou des annonces de dates pour d'autres films, etc. Donc,
ouais. Peut-être des plus de détails, un ou deux films en plus pour la phase 6, dont on ne connaît pas grand chose. Le gros truc, et on va pas trop spéculer, mais le gros truc qui pourrait annoncer, c'est plus de détails sur l'arrivée des X-Men dans le MCU. Ça serait le gros truc, la grosse dernière cartouche, quoi. Qu'il pourrait utiliser. Je sais pas si ça sera forcément nécessaire. C'est peut-être un peu tôt. Moi, je peux imaginer que ça arriverait vers la fin de la phase 5 pour le moment où on commence à s'exciter pour la phase 6. Il pourrait en parler à ce moment-là. Mais peut-être, je sais pas. Je sais pas. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de She-Hulk. On s'est mis tous les deux comme ça autour avec nos mains jointes. pour faire le tour de She-Hulk. On est plutôt content. On verra comment ça évolue. Merci, Johan, d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi, en ma compagnie. C'était très agréable, comme toujours.
Et plaisir.
Bah, du coup, on se donne rendez-vous dans une semaine, soit dans 2, en fonction de ce qui se passe à D23. Voilà. Et en attendant...
Donc, si c'est dans 2 semaines, c'est que D23 était vraiment nul. Hein.
Ouais, c'est ça. Ou peut-être qu'on sera super occupé et qu'on fera un épisode avec She-Hulk et D23 dans 2 semaines, on verra. Mais en attendant, où te retrouve-t-on, Johan ? Où peut-on discuter avec toi et t'expliquer à quel point tu as tort de ne pas apprécier alors, She-Hulk autant que moi.
Quel meilleur endroit que Twitter pour expliquer à quelqu'un qu'il a tort ? Donc venez me dire que j'ai tort sur Twitter à @johant_.
Super. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord qui est lié sur notepatrick.com. Donc vous pouvez aller sur notepatrick.com et en haut, il y a un petit lien vers le Discord. On parle de tous ces sujets régulièrement là-dessus. Et puis, vous avez bien sûr le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu où on parle d'actu tech et d'actu gaming. Y a beaucoup de choses qui se passent dans le jeu vidéo et bien sûr, beaucoup d'Apple-ry sur tout ce qui est tech. Donc, vous pouvez retrouver tout ça toutes les semaines dans vos apps de podcast, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et moi, je suis sur Twitter aussi, notre Patrick, vous le savez. Merci à tous d'avoir passé cette petite demi-heure en notre compagnie et on se retrouve dans une ou deux semaines. Ciao, ciao.
À bientôt.